Radio Stable.
Morning Edition from NPR
News.
France Inter, le 18-20.
Beaucoup de gens commencent à penser au clonage avant que leur chien meure. Il ne faut surtout pas congeler le chien. Il faut procéder à la biopsie le plus rapidement possible. C'est souvent un morceau de peau ou un morceau de muscle.
Voilà, un chien cloné, histoire de remplacer le vôtre par un nouveau qui lui ressemble en tout point, en tout cas physiquement. Qu'est-ce que vous en dites? Ce sera l'escale sonore d'un jour dans le monde ce soir qui vous emmène en Corée du Sud où le clonage des chiens est totalement banalisé. Je vous laisse découvrir ça dans un instant. Sous les radars et Hélène Roussel en Afrique du Sud, vous l'avez entendu au Brésil et aux États-Unis. Le cinéma en VO, c'est à 18h50 avec Corinne Pellissier qui a vu un film argentin qui ressemble à un polar, mais qui en réalité est très politique. Et puis Le Monde à l'envers de Jean Marfour à 18h55 avec cette photo d'un homme et son petit, le nez dans la vase, charrié sur les rives du Rio Grande qu'ils essayaient de traverser. La photo est à la une de tous les journaux américains, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Pas forcément. Avant cela, je vous emmène à New York et ailleurs. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
S'il y a des gay pride un peu partout dans le monde, et en ce moment d'ailleurs en France et ailleurs, en ce mois de juin, s'il y a des droits LGBT surtout, même s'il reste des progrès à faire, s'il y a des mariages en partie, c'est peut-être ou totalement grâce à Stonewall, les émeutes de Stonewall, à moins que ce soit la révolution de Stonewall. C'était il y a 50 ans, en ce moment même, donc en juin 1969. Bonsoir Christophe Martet.
Bonsoir Fabienne Saint-Es.
Vous êtes rédacteur en chef de Committed, vous militez pour une association d'aide aux réfugiés LGBT qui s'appelle L'Ardis, vous avez dirigé ACT UP. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs, avant de réexpliquer ce que c'était Stonewall? On dit émeute, on dit révolution?
On dit émeute, mais certains ont comparé, certains chercheurs ont même comparé Stonewall à la prise de la Bastille, et le magazine Time l'a classé parmi les 10 mouvements, enfin événements sociaux, avec la marche des droits civiques, avec d'autres événements, comme les 10 événements les plus importants du 20e siècle, en tout cas dans le monde occidental.
En tout cas, donc, quel que soit le terme qu'on utilise, on peut dire que... Est-ce que vous diriez, vous aussi, on y viendra, que 95%, peut-être plus, ou moins, j'en sais rien, des droits LGBT aujourd'hui viennent de là? Est-ce que le démarrage, au fond, de la lutte LGBT, c'est Stonewall, en fait?
Alors,
le marqueur.
Stonewall, donc, faut rappeler, voilà, c'est la première fois que des gays, des lesbiennes, des bi, des trans, beaucoup de femmes trans, mm-hmm. beaucoup de femmes noires aussi, se sont battues. On dit stop. Stop à l'oppression, stop au chantage qui se faisait dans les bars à New York, stop à l'invisibilité, stop à l'injustice. Et c'est la première fois qu'ils prenaient la parole à la première personne, plutôt qu'on parlait d'eux, etc. Et c'est ça qui a fait, je crois, le début, effectivement, du mouvement moderne.
Alors, c'est le début du mouvement moderne, et en même temps, il faut rappeler ce que c'est que ce café de Stonewall. On est dans Christopher Street, on est dans le quartier gay, à l'angle avec la 7e, et en même temps, c'est pas sympa du tout, cet endroit. En fait, c'est presque une bauge, enfin, personne n'y va, à part, donc, la communauté gay. Pareil, qu'il n'y avait pas forcément d'électricité ou d'eau, je me souviens plus, enfin, c'était pas top. En fait, c'était très ghettoisé, cet endroit-là, à ce moment-là.
Bah, il faut rappeler qu'à l'époque, en tout cas à New York, les bars sont plus ou moins tenus par de la mafia, on peut pas vraiment servir de l'alcool, donc on en sert, donc la police régulièrement fait des descentes.
Coupé à l'eau, paraît-il, à Stonewall.
Voilà, et surtout, c'est vrai que c'était un bar qui était vraiment... plutôt pour une clientèle, on va dire, de personnes défavorisées, ouais, en fait. Plutôt.
Très, très underground,
voilà,
en fait.
Voilà, exactement.
C'était pas hype, comme on dirait aujourd'hui,
non,
c'était très
pas
underground.
Du tout. Mais parce que, effectivement, bah, souvent les gens. Il y a un bouquin génial qui s'appelle Gay New York qui montre ce qui se passait avant Stonewall à New York, et où là, on voit qu'il y avait une vraie vie gay homosexuelle, principalement masculine, mais aussi féminine. Il se passait beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que bah, si vous n'aviez pas une sociabilité gay, si vous n'aviez pas beaucoup d'argent, bah, vous étiez dans la rue. Et vous alliez parfois dans les bars pour vous rencontrer d'autres personnes LGBT.
Ça voulait dire quoi être gay à New York à cette époque-là? On a beaucoup entendu dans les témoignages qu'on n'avait pas le droit de danser ensemble, par exemple. On n'avait certainement pas le droit de s'embrasser, certainement pas en public. Ça voulait dire quoi être gay à cette époque-là?
Il faut rappeler qu'en 69, donc l'année de Stonewall... il y a un seul État aux États-Unis qui a arrêté la loi anti-sodomie. Mmh. C'est un crime. Mmh. C'est toujours un crime dans la plupart des États. Il faut rappeler que c'est le cas dans énormément de pays. Donc on peut être arrêté dans la rue pour conduite voilà, inappropriée. Les personnes trans, parce que certaines ne sont pas dans le passing complet, c'est-à-dire qu'une femme trans, bah, on va se dire « Ah, elle a peut-être des épaules un peu trop larges », c'est interdit, on l'arrête. Donc très régulièrement, il y a des descentes de police à New York.
Et il y a très régulièrement aussi des descentes de police dans ce bar spécifiquement. L'étincelle, au fond, est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'il y en a une? Pourquoi ce jour-là? particulièrement? Est-ce que ça aurait pu être 3 jours avant, 3 jours après, 1 mois avant, 1 mois après?
Ça aurait pu être 1 mois avant, 1 mois après. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, certains ont parlé du fait qu'il y avait une cérémonie quelques heures avant en l'hommage à Judy Garland, la chanteuse, mais ça, apparemment, c'est vraiment une légende urbaine. On ne sait pas. Est-ce qu'il faisait plus chaud que d'habitude? Est-ce que, tout d'un coup, les personnes qui étaient là ont eu en même temps le même réflexe de se dire « pour moi et pour ma communauté, ça suffit » et tout d'un coup, chaque personne en colère, ça devient une communauté LGBT en colère, en fait.
Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, réellement? Il y a donc cette descente de police et des policiers qui se retrouvent, au fond, coincés à l'intérieur.
Coincés
à l'intérieur. Quoi, exactement, en fait?
Coincés à l'intérieur. Et ensuite, quand d'autres policiers arrivent, se reçoivent des jets de pierre, etc. Et les émeutes durent plusieurs jours. On voit des images assez impressionnantes du quartier en feu. Enfin, ça ressemble un peu à mai 68, quelque part, avec toute une population, effectivement, LGBT invisible habituellement. Et surtout, qu'on montrait, justement, en train d'être arrêté, la caméra posée sur eux, donc la tête baissée, etc. Et là, au contraire, debout, en train de jeter des pierres contre la police.
On est, vous l'avez rappelé, en 69, à la fin des années 60, donc les manifestations pour les droits des femmes ont commencé très largement, les manifestations contre la guerre du Vietnam ont commencé très largement, les manifestations pour les droits civiques ont commencé très largement, ont même techniquement, en termes de loi, abouti. Et au fond, les seuls qui n'ont rien commencé, rien obtenu encore, c'est la communauté gay. Est-ce qu'on se range dans cette continuité-là, au fond, avec Stonewall? La suite, droits des femmes, droits des Noirs, lutte contre la guerre, c'est aussi les luttes pour les droits LGBT.
Bien sûr, et c'est non seulement un continuum, mais il faut voir par exemple qu'aux États-Unis, la lutte pour les droits civiques, énormément de personnes gays, lesbiennes, se sont mobilisées en fait. Et on voit que le mouvement féministe, il a aussi nourri les mouvements LGBT et inversement. Donc tout ça est très très lié. Tout ça est très très lié effectivement à ce vent de liberté en fait.
À quel moment cette émeute-là, quel que soit le nom qu'on en donne, à quel moment ça prend réellement un sens politique? À quel moment on sait en fait qu'il est en train de se passer quelque chose et qu'on ne reviendra plus en arrière?
Alors je dirais que c'est peut-être l'année suivante, quand justement pour la première fois il y a une marche homosexuelle dans New York et qui célèbre justement ces émeutes. Il faut savoir qu'il y avait eu d'autres événements, notamment à San Francisco, il y avait eu des événements un peu de ce type, mais qui n'avait pas marqué autant la société. Et voilà, 1970, c'est l'année où il y a cette première Gay Pride. C'est-à-dire que là, il y avait une réaction très forte au moment des émeutes. Mais un an après, il y avait déjà un mouvement. Il y avait déjà des personnes qui défilaient avec des pancartes, des banderoles dans New York. Et il y avait un reportage qu'on a vu récemment, d'ailleurs, au Outdoor, qui était un reportage de la télévision française. C'était assez impressionnant, d'ailleurs, le commentaire qui en était fait. Mais
voilà. Disait...
Oh ben, c'était des clichés, quoi. Clichés sur clichés. Et puis, surtout, ça montrait la réaction, en fait, du public. Qui était « Ah mais c'est horrible, c'est atroce, etc. Ben, » Vous voyez des folles flamboyantes, vous voyez des personnes trans qui étaient absolument fiers d'être là, absolument contents. Enfin, vous vous rendez compte que prendre la rue, être visible dans l'espace public, quand on est une femme, quand on est un homosexuel, et que c'est pas là où on nous a, entre guillemets, où on nous assigne. Moi, ma première Gay Pride, c'était en 81, mais j'ai un souvenir encore aujourd'hui très ému, parce que vous avez enfin l'impression que le monde autour de vous n'est pas hostile.
Mais c'était encore dangereux en 70 de faire une Gay Pride un an après Stonewall.
Bien sûr.
Il n'y avait absolument pas eu de dépénalisation dans un
Tout
sens comme, dans un, comme dans un autre. À quel moment le Stonewall arrive? Vous vous souvenez par exemple de Stonewall, vous,
j'avais
jeune
10 ans.
Ou pas? Alors voilà, c'est un peu
jeune,
jeune.
Un peu jeune.
Mais à quel moment ça traverse les frontières et ça vient, y compris chez nous ou ailleurs aussi, pour dire attendez, il se passe peut-être quelque chose sur ce front-là?
Bah, la première marche, en tout cas en France publique, c'est 77. Et donc, vous voyez, il faut quand même presque donc 8 ans. Le mouvement a été assez lent. Et c'est dans les pays nordiques, principalement, les Pays-Bas, la Suède, que ces questions LGBT, d'égalité des droits, commencent à émerger assez vite. Mais à la fin, oui, on parle de la fin des années 80, donc il faut presque 20 ans, en fait, pour voir déjà des formes de reconnaissance du couple.
Et de droit, par exemple. En fait, et de réel droit. Parce que, donc, ce que vous dites, c'est que pendant 20 ans, au fond, effectivement, la communauté LGBT gagne le droit de manifester au moins et de se montrer, ce qui est déjà beaucoup. Mais en termes de droit, il se passe rien, en fait, ou pas grand chose?
Ben, il se passe des choses. Alors, en France, il se passe quand même la dépénalisation en 80, par François Mitterrand. Mais il faut rappeler que jusqu'en 83, par exemple, vous étiez deux hommes, ça m'est arrivé, bah, vous demandiez une chambre d'hôtel, c'était refusé. Vous louiez un appartement, il fallait louer en bon père de famille. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui n'étaient pas forcément d'une violence inouïe, mais qui faisaient que la vie était difficile. Donc, 81, ça commence. Mais en France et dans certains autres pays, mais la Grande-Bretagne, ça a mis un temps fou. Alan Turing, la personne qui a décodé le code Enigma des nazis, qui a permis que la Seconde Guerre mondiale dure 2 ans de moins que prévu, ce garçon a été condamné pour homosexualité en 1954, il s'est suicidé en 1956, et la reine l'a pardonné en 2000, je l'ai noté, en 2013. Oui, donc c'est quand même on a l'impression que ça va vite, et je pense aujourd'hui on se dit, oh, il y a le mariage, etc. On a l'impression que ça va vite. Non, ça va pas vite, en fait. Enfin, pour moi, ça n'a pas été si vite que ça.
Est-ce qu'il y a des figures qui sont sorties de Stonewall? Parce que, moi, personne ne me vient à l'esprit. J'ai lu l'histoire de Marsha P. Johnson, notamment, voilà, en préparant cette émission. Mais au fond, on a l'impression que des figures réellement qui en sont sorties, qui ont pu devenir des emblèmes, il y en a eu assez peu, ou en tout cas sont restées, assez confinées, là, en l'occurrence, à New York.
Absolument, on parle de Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, mais aussi parce que le mouvement gay...
Black et trans, il faut dire, donc à ce moment-là c'est encore plus courageux peut-être.
Tout à fait, et c'est aussi ça qui explique que malheureusement, dans la communauté gay comme partout, il y a aussi des discriminations, et que être représenté entre guillemets par une femme black et trans, eh bien c'était pas forcément ce que voulait le mouvement LGBT, enfin le mouvement gay on va dire au départ... Parce que c'était des blancs qui, d'ailleurs, on le voit bien, comment les garçons s'habillaient à partir des années 70-80, c'était assez butch, comme on dit, c'était assez masculin, parce qu'on ne voulait plus ressembler à des folles, entre guillemets.
Vous le disiez tout à l'heure qu'un certain nombre de droits, peut-être tous les droits donc des LGBT, aujourd'hui de la communauté LGBT, émanent de Stonewall, et pourtant, il reste des choses assez paradoxales, on va dire. Aux États-Unis, par exemple, il y a encore 28 États qui autorisent le licenciement pour les gays, et en même temps, on a un couple gay avec Buttigieg, qui est candidat à l'élection présidentielle, qui peut faire la une de Time. Donc on a l'impression qu'on est toujours, y compris dans ce pays, dans celui de Stonewall, dans une vaste ambiguïté, en fait.
Tout à fait. Et on voit aussi que Trump essaye régulièrement, par exemple, de diminuer les droits des personnes trans. On voit que il y a des discours très très négatifs de son administration concernant les LGBT. Et donc... ce qu'on voit aussi, c'est qu'avant Stonewall, il y a eu les années 20 où il y avait par exemple une grande liberté. Là, il y a une grande expo sur le cinéma LGBT à Paris. 1919, premier film homosexuel. Mais après, il y a eu cette chape de plomb. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas linéaire. C'est-à-dire, c'est comme pour les droits des personnes noires, c'est comme pour les droits des femmes. Si on ne se bat pas, si on continue pas, oui, il peut y avoir malheureusement des retours en arrière. Et on le voit aux États-Unis avec certains aspects que vous avez cités.
Aux États-Unis, au Brésil, dans d'autres pays. Et encore, est-ce que vous avez le sentiment, Christophe Martet, que aujourd'hui ou dans quel pays sommes-nous capables d'élire un président gay, par exemple? Est-ce qu'on en est là? Parce que des maires, oui, beaucoup, ça existe, très symboliquement, la maire de Chicago récemment, etc. Chez nous aussi, dans d'autres pays, est-ce que plus loin, nous avons tous collectivement, nos sociétés, cette capacité-là ou pas?
Alors, il y a déjà eu des premiers ministres, des premières ministres dans des pays où c'est la personne qui, on va dire, vraiment gouverne et qui a le pouvoir, qui ont été gays, enfin qui sont gays ou lesbiennes. Mais est-ce qu'on est prêt à ça? Je sais pas. En même temps, on a bien vu qu'à Paris, l'élection de Bertrand Delanoë n'a pas du tout posé problème et que
on est à Paris.
On est à Paris, peut-être, oui.
Il y a une marque désormais. C'est considéré aux États-Unis, Stonewall, comme le Grand Canyon, la Statue de la Liberté, donc gardé par un ranger, même, il y a ce marqueur, c'est Obama en 2016 qui l'a instauré, je ne sais pas si on dit comme ça, c'était quelque chose d'extrêmement important, c'était symboliquement ce qu'il fallait pour un monument comme celui-ci, en faire justement un monument, c'est ce qu'on souhaitait dans la communauté LGBT ou pas?
Je pense que c'est très important, c'est symboliquement très important, et surtout ce que je voudrais dire, c'est voilà, c'est que cette libération et cette ce symbole de Stonewall a fait qu'aujourd'hui on peut étudier l'histoire LGBT de façon complètement différente, et qu'on peut, ben, je vous parlais d'Alan Turing, mais il y en a plein d'autres, des hommes et des femmes dans notre histoire qui ont compté, et aujourd'hui on peut étudier ça, on peut montrer ça, on peut en parler, et en France on a vu, bon, à Paris effectivement, Anne Hidalgo a inauguré plusieurs plaques en l'hommage à des personnes LGBT. Oui, c'est très important que la visibilité soit aussi dans la rue. C'est très important pour effectivement, je pense, les jeunes générations. Parce que quand vous êtes gay ou lesbienne, la première expérience, c'est j'ai l'impression d'être un peu tout seul, en fait. Et là, bah, ne serait-ce que vous marchez dans Paris adolescent ou adolescente et voir les émeutes de Stonewall, voir voyez telle ou telle personnalité, Harvey Milk, etc. Noter, ah ben, bah, voilà, ça vous vous interrogez.
Mais du coup, ça se visite, en fait. Le fameux bar se
Bien
visite.
Sûr. Ouais, c'est comme un parc national.
Merci beaucoup, Christophe Marté, Stonewall 1969. Donc, merci de nous avoir rafraîchi la mémoire.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Une suite d'un jour dans le monde vous emmène visiter un établissement de clonage de chiens, c'est en Corée du Sud, et vous me direz quel sentiment ça vous laisse. Nous, ça nous a fait tout bizarre. Sous les radars, et Hélène Roussel qui vous apprendra ce qu'est le Memphis Juking. Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Avec un film argentin, ça s'appelle Roja.
Exact, Rojo. Voilà, les parents du réalisateur étaient dans les années 70 donc en Argentine, et représentaient ce qu'on appelle la fameuse menace rouge. Ils ont dû fuir le pays à cause de la répression et de la dictature. Ils nous racontent comment tout cela l'a inspiré.
Et vous allez nous le raconter, vous, à votre tour. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Le Monde à l'envers, cette semaine, c'est la photo de ce père et de son fils noyés dans sa fillette, noyés dans le Rio Grande en cherchant à rejoindre donc les États-Unis. Toutes les unes aux États-Unis, mais allez savoir si ça fera bouger les lignes.
Oui, c'est une photo choc qui crée beaucoup d'émotions aux États-Unis, dans le monde latino-américain. Est-ce que ça va changer quelque chose politiquement? Pas gagné.
Allez, à tout de suite. Jean-Marc, le tour de la planète est loin d'être fini. On se retrouve juste après Grace Jones. I've seen that face before. Jones sur France Inter. I've seen that face before.
France Inter.
Good evening and welcome.
Erasmus Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Comme grâce à notre invité, j'ai un éventail, je vais vous le faire entendre. Paf, la classe. Allez, il y a des coins, Hélène Roussel, sur la planète où respirer est déjà devenu un combat.
Je vous emmène en Afrique du Sud, à Emalaleni, dans le nord-est du pays. Les yeux qui brûlent, les quintes de toux, l'impression d'étouffer, les aérosols n'y changent rien. Les enfants dehors jouent avec des masques. Que se passe-t-il à Emalaleni? Littéralement, ça veut dire le lieu du charbon. Ça y est, vous visualisez. La ville est coincée entre plusieurs mines de charbon poussiéreuses, une douzaine, et les fumées des centrales électriques qui brûlent la production jour et nuit. Il y a aussi une raffinerie de pétrole, n'en jetez plus, c'est simple. La région de la High Veld est l'une des régions au monde les plus polluées en dioxyde d'azote et dioxyde de soufre. Greenpeace dénonce entre 300 et 700 décès prématurés par an. Alors les ONG attaquent en justice le gouvernement accusé de violer le droit constitutionnel des citoyens à respirer un air sain. Une première dans ce pays, principale puissance industrielle du continent. Mais les autorités font la sourde oreille. Pourtant, me direz-vous, s'il y a bien un pays où il y a de l'énergie solaire à gogo, c'est bien celui-là. Oui, mais le charbon représente toujours 86% de la production d'électricité, même si le coût annuel de la pollution est évalué à 2 milliards d'euros. Faut croire que ça reste rentable et que, comme d'habitude, c'est tout ce qui compte.
Hélène, on part pour le Brésil, où le président d'extrême droite Bolsonaro a dû rengainer ses décrets sur les armes à feu, là, pour le coup.
Et oui, c'était sa principale promesse de campagne, hein, assouplir la législation sur les armes à feu, libéraliser le port d'armes. À peine élu en janvier, Bolsonaro signe les décrets. Voilà ce qu'il dit alors à la tribune.
La législation actuelle peut se comprar até 4. E ele...
Avec sa nouvelle législation, Bolsonaro promet que chaque bon citoyen pourra acheter au moins 4 armes et les utiliser en dehors de chez lui au nom de la légitime défense. C'est un décret fait pour les bons citoyens, dit encore le président brésilien, pour que les bons citoyens aient la paix. Les gentils et les méchants, c'est une façon de voir le monde. Son décret autorisait un grand nombre de professions à porter une arme dans la vie publique, les agriculteurs, les chauffeurs routiers, souvent victimes d'attaques, mais aussi les hommes politique. Discours qui a fait écho dans ce pays le plus dangereux au monde. 500 000 homicides en 10 ans. C'est plus que toutes les guerres récentes. Au Brésil, une personne se fait tuer toutes les 10 minutes. Mais la loi de la jungle a tout autant séduit qu'effrayé. Le Sénat a retoqué les décrets et la Cour suprême allait faire de même aujourd'hui. Alors, le président Bolsonaro a pris les devants. Il a effacé les points qui pouvaient faire polémique. Il a signé 3 nouveaux décrets édulcorés, dit-on. Sans doute que la liste des gens bien a été réduite.
Allez, Hélène, si on dansait maintenant, est-ce que je peux en profiter pour...
Allez-y, voilà, faites-vous plaisir. Bon, Fabienne, est-ce que vous connaissez le Memphis Jukin?
Pas du tout.
Une danse de rue, sorte de hip-hop très sophistiquée mélangée à de la danse classique. Okay. L'artiste qui a rendu cette danse célèbre s'appelle Charles Riley, alias Lil Buck, et il est une superstar. On va y revenir. D'abord, on va le laisser nous raconter ce qu'est le Memphis Jukin.
Jukin has been around for about 30 years as an underground dance style that was born in
Le Jukin, nous dit-il, existe depuis une trentaine d'années à peu près, une danse underground née dans les rues de Memphis, Tennessee, connue au départ dans les années 80 comme la marche des gangsters, des mouvements assez basiques sur du rap, et puis ça a évolué, c'est devenu une danse plus complexe, très compétitive où il faut sans arrêt rajouter des mouvements pour gagner la battle. Ça reste une danse essentiellement tournée sur le bas du corps et les pieds. Alors avec ses pieds justement, Lil Buck lui fait des pointes et des miracle. Il a 12 ans quand il se met à danser pour fuir l'ennui et la délinquance. Très vite, il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Sa mère l'inscrit dans une école d'art. De là, il va découvrir le ballet. Aujourd'hui, il collabore avec le chorégraphe Benjamin Millepied, l'artiste JR, Madonna aussi sur la scène du Super Bowl. Et il est mondialement connu depuis sa tournée La mort du cygne.
Swan Lake Reloaded. Une lecture furieusement moderne du lac des cygnes de Tchaïkovski. Chorégraphie classique et danse urbaine s'enchaînent dans un univers électro. Osé, futuriste, décoiffant. Swan Lake Reloaded.
Lil Buck, jeune prodige, virtuose. Je vous conseille d'aller voir les vidéos, c'est très impressionnant. Sa vie, son œuvre seront racontées dans un documentaire tout bientôt de Louis Welkin et ça sort à l'automne au cinéma.
Voilà, Corinne Pellissier est d'accord.
A l'air d'approuver.
Ne l'a pas encore vue, Corinne, mais vous viendrez nous en parler ici même. Allez. Réveillez-vous maintenant.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est en Corée que je vous emmène ce soir pour l'escale sonore d'un jour dans le monde, dans une histoire qui nous a tous laissé un peu dubitatif au bureau. Pour vous dire, vous avez peut-être un chien, et quand il meurt, évidemment, ça rend la famille très triste, mais en Corée, ils ont, on va dire, une semi-solution. Ils clonent des chiens, ils en clonent en pagaille, s'offrir une copie de son chien est tout à fait commun. Bonsoir Frédéric Ojardias.
Bonsoir Fabienne.
Alors vous allez nous raconter, Frédéric, ça commence par une remarque d'abord hallucinante. 80% des chiens qui reniflent les bagages dans les aéroports coréens sont des clones, mais pourquoi donc ?
Eh bien, l'avantage est économique. Dresser un chien policier qui possède l'ADN d'un animal qui a déjà fait ses preuves coûterait deux fois moins cher, les dresseurs ne perdant pas de temps à former un chien qui se révélera être un mauvais renifleur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à l'aéroport international d'Incheon qui dessert Séoul, 39 chiens clonés inspectent les bagages à la recherche de drogues et de produits illicites. Ces clones ont été produits par l'entreprise Swam Biotech, basée à Séoul. C'est l'une des deux seules cliniques privées au monde à proposer un service commercial de clonage de chiens. L'autre, c'est une concurrente américaine. Et c'est une Française, Claire Arnaud, qui est en charge des relations clientèle de Swam Biotech. Elle explique la procédure à suivre si un jour vous voulez cloner votre animal.
Tous les gens ne nous appellent pas après la mort de leur chien. Il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à penser au clonage avant que leur chien meure. Alors, des fois, leur chien est malade, des fois, leur chien va très bien. Donc, quand le chien va bien, en fait, le processus, il est le même que le chien soit mort ou pas. C'est juste que quand le chien est mort, il faut aller beaucoup plus vite. Parce que plus les heures passent, plus les cellules se détériorent. Donc, déjà, il faut bien préserver le corps du chien. Donc, l'idéal, c'est de préserver le corps du chien entre 2 et 5 degrés Celsius. Il faut surtout pas congeler le chien. Il faut procéder à la biopsie le plus rapidement possible. Une biopsie, c'est une intervention où en fait on prélève un morceau de tissu, donc c'est souvent un morceau de peau ou un morceau de muscle. Et dans ce morceau de tissu, il y a des milliers et des milliers de cellules qu'après on peut utiliser pour le clonage.
Swam Biotech affirme même être capable de cloner un chien à partir de son urine, plus précisément à partir des cellules de rein qui se retrouvent dans son urine. Dans ces cellules se trouve le noyau qui contient l'ADN. Cet ADN est extrait et implanté dans un ovocyte, une cellule sexuelle femelle. Après traitement est obtenu un embryon qui est implanté dans l'utérus d'une mère porteuse. Deux mois plus tard naît un chiot cloné, copie conforme de l'original.
Mais alors, Frédéric, est-ce que ce clone aura la même personnalité que l'animal d'origine, si je puis dire ?
Non, l'apparence physique sera la même, mais la personnalité est largement déterminée par l'environnement et l'éducation, comme l'explique Claire Arnaud.
Nous, on ne peut pas garantir aux clients que le chien cloné va avoir exactement la même personnalité que le chien original. C'est-à-dire que s'il est élevé exactement de la même façon par les mêmes personnes, dressé de la même façon, il va avoir une personnalité similaire. Mais on peut pas dire au client, votre chien, ça va être exactement le même. Après, quand les clients perdent un chien qui leur est extrêmement cher, il y a tellement de tristesse et tellement de bonheur à retrouver ce chien qui a été perdu, qui est 100% identique au niveau de l'ADN à ce chien-là, qu'il y a aussi, je pense, une partie psychologique des clients qui veulent voir dans ce chien leur chien qui est décédé.
Si vous voulez cloner votre chien à Swam Biotech, il vous en coûtera 89 000 euros. L'entreprise affirme produire entre 100 et 200 clones par an.
100 et 200 par an pour 89 000 euros. Qu'est-ce qu'on sait, surtout Frédéric, des conditions dans lesquelles ces animaux sont clonés ?
Alors, c'est très opaque et c'est là que le bât blesse. Swam Biotech a été fondé par un chercheur controversé, Hwang Woo-seok, condamné pour avoir falsifié ses travaux et pour manquement à l'éthique. Bo-rami So, directrice de la branche coréenne de l'ONG Humane Society International, accuse le clonage de faire souffrir les animaux.
Les chiens utilisés pour le clonage doivent subir des opérations chirurgicales. On leur prélève leurs ovocytes. Ils subissent des injections d'hormones. Les mères porteuses se voient implanter des embryons clonés. Elles sont enfermées dans des cages. Elles doivent produire des chiots clonés à un rythme régulier. Je pense que c'est de l'exploitation. Les animaux ne sont pas des choses que l'on peut copier-coller. Le clonage est dangereux, car il transforme les animaux en de simples produits jetables à usage des humains.
D'autres ONG s'inquiètent aussi de voir ces techniques qui se perfectionnent être un jour utilisées chez les humains. Elles critiquent enfin le gouvernement sud-coréen qui, en achetant des clones à Swam Biotech, finance ses activités.
D'accord. Et alors, il y a débat, ce sera la dernière question, Frédéric. Il y a débat en Corée autour de ce sujet ou pas du tout ?
Alors, jusqu'à récemment, non, mais le mois dernier, un laboratoire de l'Université nationale de Séoul a été accusé d'avoir infligé des expériences cruelles à un beagle cloné qui en est mort. Des photos accablantes ont été publiées. L'affaire a pour la première fois provoqué une controverse nationale. Elle a été révélée par l'ONG Beagle Rescue Network. Jay, son représentant, critique les labos de clonage et aussi leurs clients.
Vous savez, les expériences vécues après la naissance sont cruciales dans la construction de la personnalité d'un chien. Un clone n'est donc pas le même que l'original. Et selon nos recherches, pour cloner un chien, il faut au moins entre 50 à 60 chiens femelles pour récolter leur ovocyte. Si les clients connaissaient le processus de clonage des chiens, est-ce qu'ils demanderaient à cloner le leur ? Beaucoup d'animaux doivent être sacrifiés pour fabriquer leur clone. C'est très égoïste.
Swam Biotech réfute ces accusations. Le labo assure faire le plus d'efforts possible pour ne pas faire souffrir les animaux et affirme qu'aucun chien ne meurt lors du processus de clonage. Mais les associations de défense animale, elles, ne sont guère convaincues.
Et nous, ça nous laisse un drôle de sentiment autour de la table. Merci beaucoup, Frédéric Ojardias. Drôle d'histoire, drôle de pays que la Corée du Sud. Allez, le groupe s'appelle Roseau, il est dans la playlist de France Inter, ils sont français, figurez-vous, la chanson s'appelle Heart and Soul.
Come my love, come and shine with your light on me. Come and play with the chimes in the belfry. Come with me and hold me in your arms. Let me feel your tenderness and your warmth. When the rain is falling hard and the storm is far from over, my lady love, that's you. You give me take away my sadness. Oh, lady, darling, it's true. I'll give my world to you. Let me show you how. Let me show you now. Long to hear your voice 'neath the night forlorn, and to gaze for a while into your eyes reborn. And though my mind sometimes gets weak and cold.
On valide, non ? Le groupe Roseau, Heart and Soul, c'est le titre, et c'est dans la playlist de France Inter. 3, 2,
1, let's go. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jour.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier avec un film qui sort la semaine prochaine sur les écrans. Ça s'appelle Rojo, du réalisateur argentin que je ne sais pas prononcer, Corinne.
Benjamin Neistat.
Voilà, au cas où. Sur la dictature militaire dans les années 70 et 80, 1,5 million d'exilés, 30 000 disparus, 9 000 prisonniers politiques, un climat très poisseux qui est évoqué à travers le parcours d'un avocat réputé, notable, prêt à tout pour conserver son confort et ses privilèges. Un bout d'extrait, on se parle après.
Pedrito, todo lo que está pasando en estos momentos.
¿Quién es?
¡Hijo de puta!
Patrick. Il est question ici de la disparition d'un homme, Corinne, après un dîner qui tourne mal. Benjamin Nechrat a choisi d'aborder la question de la répression par le biais d'un polar, mais en réalité c'est un vrai film politique.
Exactement, Benjamin Nechrat est un jeune réalisateur de 33 ans, il n'a pas connu cette époque, mais tous ses films, là c'est son troisième, en sont très imprégnés, déjà parce que ses parents, dans les années 70, ont dû fuir l'Argentine à cause de leurs convictions politiques, à la fameuse menace rouge. Ils sont venus s'installer en France. Lui a grandi avec ce récit de la répression et de la dictature. Et puis pour lui, c'est une question générationnelle. Comment vivre en paix aujourd'hui en Argentine avec un héritage aussi lourd à porter? D'autant que selon lui, ce n'est pas fini. Son film évoque les années 70, mais il y voit une grande résonance avec la situation aujourd'hui dans le pays.
Ma famille, du côté de mon père, appartenait à des partis de gauche poursuivis à l'époque. La maison de mon père a été brûlée en 75 et ils ont pris la fuite. Et après, ma famille est revenue en Argentine, mais ça reste un truc très traumatisant de tout quitter, de perdre sa maison. C'est un héritage d'un certain traumatisme qui résonne encore dans ma propre expérience quand je vois les dérives d'aujourd'hui en termes politiques en Argentine, au Brésil, où la droite dure revient d'une façon qui fait peur. Du point de vue économique, c'est une catastrophe. On est dans une récession terrible, mais il n'y a pas que ça. On entre dans une sorte de logique manichéiste qui fait appel à des mémoires d'une autre époque, justement, la mémoire des années 70 où on pensait à une menace rouge. C'est une façon de contrôler la population, de dire vous suivez cet ordre libéral en axe complet avec les États-Unis d'Amérique qui ont beaucoup d'influence dans tout ce qui se passe en Amérique latine. Sinon, vous allez devenir soviétique. On recommence avec un discours comme ça qui est très dangereux pour le développement de la société, évidemment.
Ce qui est assez curieux, Corinne, dans ce film, c'est que le poids de ce passé, on n'en parle pas en fait. Tout est dans le sous-texte.
Oui, et même un petit peu dans le déni. Et c'est ça qu'a voulu montrer le réalisateur à travers le personnage de cet avocat qui s'appelle Claudio. Il va progressivement glisser vers le crime, le cynisme, pour essayer d'étouffer une affaire qui pourrait lui faire du tort. Aucune rédemption possible pour lui, ni pour les témoins de l'époque qui ont tout laissé faire. Ce sont les jeunes dans le film qui osent tirer la sonnette d'alarme à l'occasion de leur spectacle de fin d'année. Ce sont eux qui osent dire attention, après la répression viendra la guerre.
Rojo, mon film, il est conçu pour qu'on se pose des questions. Comment nous on traverse le quotidien quand on est face à une situation, c'est un truc, est-ce qu'on se tait, est-ce qu'on dit les choses comme il faut les dire. Il essaye de construire un sort de portrait social qui est transgénérationnel et aussi qui traverse toutes les classes sociales. Dans cette idée que la société entière était dans une certaine complicité de laquelle on ne parlait pas. Des gens du quartier commençaient à disparaître, à s'évanouir de la terre et personne ne disait rien comme si de rien n'était. Bien sûr, on sait tous que pendant les années 70 en Argentine, une terrible vague de répression estatale et paramilitaire a fini avec la disparition de 30 000 personnes. Non, c'est la plus grande horreur du XXe siècle en Argentine et un des plus grands en Amérique latine qui a connu des histoires pareilles.
Alors, au-delà du fond et de l'atmosphère du film, hein, l'esthétique est vraiment très réussie. Ça sort la semaine prochaine. C'était notre dernier conseil.
Absolument. Rojo de Benjamin Nechrat. Donc, c'est bien noté. Merci beaucoup, Corinne.
Le 18-20. Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est une photo qui est en train de faire le tour du monde, celle de deux migrants, un papa et sa fille, morts dans le Rio Grande entre le Mexique et les États-Unis. C'est l'une des photos dont on sait qu'elle peut changer le cours de l'histoire, sauf que vous croyez que ce ne sera pas le cas. Et c'est votre monde à l'envers.
Alors cette image, la voici, vous trouverez le lien sur le site de France Inter. Je vous la montre ici en studio. Elle s'affiche en une de quotidiens mexicains, américains, britanniques, espagnols. Curieusement, elle n'a pas vraiment trouvé son chemin jusqu'à la presse française. On y voit ces deux corps sans vie allongés contre terre sur les rives mexicaines du Rio Grande, entre les roseaux, l'eau verdâtre. La petite fille au pantalon rouge est encore emmaillotée dans le t-shirt de son papa. Sur son dos, le bras droit de la fillette enlace le cou du papa. Leur histoire, c'est Julia Leduc, une journaliste mexicaine du quotidien La Jornada, qui l'a retracée. Il s'appelait Oscar, il était cuisinier, il avait 26 ans, elle s'appelait Valeria, elle avait Elle allait avoir 2 ans, elle avait 23 mois. Il y a 2 mois, avec Vanessa, la maman, ils quittent leur ville de San Martín au Salvador en Amérique centrale. Ils fuient la pauvreté et les gangs. 2400 kilomètres plus tard, presque la distance Paris-Moscou. Après avoir attendu de longues semaines dans le sud du Mexique d'abord, ils se retrouvent au nord, à la frontière américaine. Le délai d'attente pour leur dossier d'immigration aux États-Unis s'annonce interminable. Avant-hier, Oscar décide alors de franchir le fleuve à la nage. Illégalement. Il parvient à traverser avec sa fille Valeria, puis il repart côté mexicain pour chercher sa femme. Et là, la fillette qui était restée seule côté américain rentre dans l'eau pour rattraper son père. Il fait demi-tour, il récupère sa fille, mais ils sont emportés par le courant.
Et cette image, Jean-Marc, est en passe de devenir un emblème politique.
Oui, parce que sa force symbolique est considérable. Elle nous rappelle des images du passé. Souvenez-vous d'autres enfants, Kim Fook au Vietnam, Mohamed Al-Doura lors de la deuxième intifada palestinienne, et bien sûr, le corps d'Aylan, cet enfant syrien de 3 ans, souvenez-vous, rejeté par la mer sur une plage turque après une tentative de traverser vers la Grèce. C'était en septembre 2015, au sommet de la crise migratoire aux frontières de l'Europe. Les presses mexicaines et espagnoles l'affirment déjà, Valeria, c'est Aylan Bis, la noyade des enfants migrants, symbole de l'indifférence des pays riches. Aux États-Unis, plusieurs candidats à la primaire démocrate expriment leur colère à quelques heures du premier débat télévisé qui doit les réunir ce soir. Beto O'Rourke écrit, je cite, Trump est responsable de ces morts. Kamala Harris ajoute, c'est inhumain, c'est une tâche sur notre conscience morale. La controverse est relancée sur la politique migratoire du président américain. Au Mexique, c'est presque la même chose. Le président mexicain se voit accusé d'avoir renforcé la militarisation de la frontière en cédant en quelque sorte au chantage économique de Trump qui menace de droits de douane supplémentaires si rien n'est fait pour réduire le flux migratoire. Précisons que ces derniers mois, ce flux s'est accru. 150 000 arrestations par mois, 800 000 dossiers en attente de traitement, déjà près de 300 morts dans le Rio Grande.
Donc pourquoi vous pensez du coup que ça ne changera rien ?
Ben, il suffit de se souvenir de la photo d'Aylan. Vague d'émotion partout en Europe, c'est vrai. Et ensuite quoi ? Pas grand-chose. La décision allemande d'accueillir de nombreux migrants avait été prise juste avant. Et ensuite, l'Union européenne s'est progressivement fermée, on le sait, aux réfugiés. La route entre la Turquie et la Grèce est ultra surveillée. Le dossier a été sous-traité à la Turquie, moyennant finance. Et en Méditerranée, il n'y a quasiment plus personne pour raconter les naufrages. Cacher ce drame, je ne veux pas le voir. Le plus probable est qu'il en aille de même avec la mort de Valeria. Qu'il y ait une exploitation politique immédiate, ça tombe sous le sens. La campagne électorale a commencé aux États-Unis. Mais sur le fond, l'opposition démocrate n'est pas si éloignée de Donald Trump. Certes, elle veut plus d'aide humanitaire pour les migrants. Mais rappelons-nous que sous Obama, les expulsions d'immigrés étaient déjà aussi nombreuses que sous Trump. Au Mexique, ça ne changera pas grand-chose non plus parce que la population mexicaine est très critique et peu accueillante vis-à-vis de ces migrants venant des pays d'Amérique centrale situés plus au sud. Alors, il ne s'agit pas de porter ici un jugement de valeur, c'est juste un constat sur les situations politiques. On peut au choix être scandalisé par un manque d'humanité ou au contraire considérer que les arbitrages politiques ne doivent surtout pas se faire sous le coup de l'émotion. Chacun d'entre vous est évidemment libre d'avoir son avis. Il reste cette photo, comme celle d'Aylan, et face à elle, notre mauvaise conscience.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers, tous les jours, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, à demain.